dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Ce passage du chapitre 3 des Hébreux s'inscrit dans ce livre des Hébreux dont le titre pourrait être « Jésus est supérieur ». On a vu au chapitre 1 et 2 que Jésus est supérieur aux anges. Ici, le chapitre 3 insiste sur le fait que Jésus est supérieur à Moïse. Dans le chapitre 4, 5, 7, 8, 9, 10, on voit en quoi Jésus offre une nouvelle alliance, une nouvelle alliance avec son peuple, et donc qui dépasse largement l'ancienne alliance que les Juifs connaissaient et pratiquaient. Jésus est supérieur. Et pour insister sur cette réalité de qui est Jésus, l'auteur fait des va-et-vient entre à la fois la personne de Jésus et les qualités qu'on peut lui donner, et l'impact que cela peut avoir dans notre vie. À savoir, connaître Jésus comme étant ceci ou cela a des conséquences pour notre vie. Et tout à l'heure, pendant le temps de prière, il y a une personne qui a insisté sur le fait que on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas connaître Jésus comme on le voudrait, on ne peut pas le connaître parfaitement, et souvent même, on a tendance à considérer Jésus un peu comme ça nous arrange ou en fonction de ce qui pourrait bien nous arranger. La réalité est que, ici dans Hébreux, on a des éléments factuels, concrets, précis sur qui est Jésus, sur lesquels nous pouvons appuyer notre foi et qui ont des conséquences sur notre manière de vivre. Alors je vais vous proposer de réfléchir à cela avec deux questions simples. Pourquoi et comment être fidèle à Christ ? Première question. Et deuxième question, pourquoi Christ est supérieur à Moïse ? Premièrement, pourquoi et comment être fidèle à Christ ? Ce passage insiste sur une vérité fondamentale que l'on voit au verset 2, à savoir que Jésus-Christ est resté fidèle à celui qui l'a établi. Jésus-Christ est celui qui est fidèle. Et cela, en fait, m'engage. Comment est-ce que moi-même, je vis une vie fidèle à Dieu ? Pas juste pour quelques jours, mais pour une vie entière. Comme il est dit au verset 6, c'est nous, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Et vous voyez cet aller-retour entre qui est Jésus, Jésus est fidèle, et ce que ça a comme pour conséquence pour ma vie, je suis aussi invité à être fidèle à Jésus. Alors, je veux tout de suite mettre au point quelque chose d'important. Ce passage justement déconstruit l'idée que pour être fidèle à Jésus, il s'agit d'être parfait, d'être sans reproche, d'être sans défaut. Pas du tout. Ce passage justement s'adresse à des personnes, les Hébreux, qui sont dans une situation de leur vie où ils sont répartis un peu partout dans l'Empire romain. Ils sont confrontés à la persécution et ils réfléchissent à l'opportunité peut-être de revenir à leur religion d'origine, à leur tradition juive, parce que finalement c'était quand même moins de problèmes, c'était quand même moins de soucis, c'était quand même plus simple. Et la réalité ici, c'est que ce passage n'invite pas ces Hébreux à être parfaits, mais il les invite au contraire à revenir à celui qui est fidèle, celui qui est le modèle, et il va donner des astuces, il va donner des solutions pour pouvoir être fidèle. Alors, les principes qui sont proposés ici, il y en a deux principaux. Et j'aimerais vous les exposer en me penchant en particulier sur le premier verset. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Le premier principe, c'est qu'il faut porter vos pensées sur. Je dois me concentrer sur Jésus. Dans la traduction d'Alfred Kuhn, Parole vivante, il est question de fixer les regards sur Jésus. Le deuxième principe, c'est celui d'avoir reçu l'appel céleste? Est-ce que j'ai reçu cet appel? Cet appel céleste à être fidèle à Jésus, cet appel céleste à suivre Jésus, cet appel céleste qui m'engage et pour lequel je m'engage à suivre Jésus. Un appel qui donc vient du ciel, qui ne vient pas de moi, de mes passions, de mes envies, de mes circonstances, mais qui vient bien de Jésus lui-même. Autrement dit, être fidèle, c'est être fidèle à quelque chose. Ici, c'est être fidèle à l'appel de Jésus. Fixer mes pensées sur Jésus. Porter mes pensées sur Jésus. On peut porter nos pensées sur Jésus, et puis on peut facilement penser à plein d'autres choses, à plein d'autres personnes. C'est pas très compliqué. Mais ici, l'auteur nous donne deux directions, deux sujets sur lesquels porter nos pensées. Deux précisions sur Jésus-Christ. La première, c'est que Jésus est un apôtre. La deuxième, c'est que Jésus est un grand prêtre. Et je ne sais pas si vous êtes surpris comme moi par l'utilisation de ce terme d'apôtre. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où Jésus est appelé apôtre. Alors que d'habitude, les apôtres, on pense tout de suite aux 12 disciples qui sont devenus apôtres après le départ de Jésus. On pense à Paul qui avait aussi le titre d'apôtre. Mais ici, c'est Jésus qui est appelé apôtre. Et alors, il se trouve que ce terme d'apôtre, ça veut dire quelqu'un qui est envoyé pour une mission. On voit ça d'ailleurs dans Jean 3, versets 16-17, lorsqu'on lit ces versets qui disent « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. » Et Jésus a été envoyé auprès des hommes pour leur apporter le message de la bonne nouvelle. Jésus est aussi un grand prêtre. Le grand prêtre dans la religion juive, c'est celui qui était le chef de l'ensemble du clergé et dont la responsabilité était d'être l'intermédiaire entre le peuple et Dieu lui-même. Une fois par an, il rentrait dans l'endroit le plus sacré du temple et c'est là où il allait offrir un sacrifice. C'est là où il venait avec le sang d'un sacrifice pour montrer à Dieu que le peuple... que Dieu devait être clément envers le peuple et devait lui pardonner ses péchés pour qu'il puisse continuer à vivre. Ce grand prêtre, c'est donc une forme d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pour résumer, Jésus-Christ est à la fois un apôtre et un grand prêtre. L'apôtre, parce que Jésus représente Dieu devant les hommes. Le grand prêtre, parce que Jésus représente les hommes devant Dieu. L'apôtre, c'est Jésus envoyé par Dieu en tant qu'homme. Le grand prêtre, aujourd'hui, c'est celui qui est assis à la droite du trône de Dieu et qui intercède pour nous. Et qui intercède pour nous pour que nous puissions être appelés saints. Ainsi donc, frères et sœurs saints, non pas que nous soyons parfaits, sans défaut et sans reproche, même si ceux qui ont vécu avec moi savent que c'est le cas. Bien sûr, c'est ironique. Merci pour leur patience. Il se trouve que la réalité de cette affirmation d'être saint, c'est que en tant que suiveur de Jésus, il se trouve que nous sommes consacrés à suivre Jésus, que nous sommes mis à part pour lui appartenir et pour l'honorer. Et cela, c'est grâce à notre grand prêtre qui intercède pour nous en étant assis à la droite du trône de Dieu. Portez vos pensées sur... Porter mes pensées sur Jésus-Christ, pas sur mes circonstances, pas sur mes succès, pas sur mes échecs, pas sur le monde autour de moi, non, sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi. J'ai fait le test cette semaine à plusieurs reprises, j'ai essayé de mettre cela en pratique dans des moments un petit peu de tension, et c'était intéressant de me dire, attends, là, c'est quoi l'essentiel dans ce que tu es en train de vivre ? Porte tes pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi. J'ai failli pas arriver d'ailleurs au culte ce matin. Hier soir, lorsque je rentre la voiture dans le garage, une grosse flaque sous la voiture. Tous mes voisins ont dû d'ailleurs se demander ce qui se passait en voyant la flaque dans le sous-sol de l'immeuble. Et puis j'ouvre le capot du moteur, et là, je vois que le bouchon du liquide de refroidissement du moteur était en fait plus là. Et donc, le moteur a un peu chauffé, parce qu'il n'y avait plus de liquide, c'était complètement répandu par terre. Donc j'ai rempli à nouveau de liquide, j'ai retrouvé le bouchon que le mécanicien avait laissé quelque part ailleurs, j'ai refermé, et donc pour venir ce matin, à 500 mètres d'ici, le voyant s'allume, je m'arrête, j'ouvre le moteur, il n'y a de nouveau plus de liquide de frein. Bref, c'est la cata. Et là, deux situations. Je regarde, je porte mes regards vers l'apôtre et le grand prêtre de la foi. Et je suis là et je peux me réjouir d'être là avec vous ce matin. Il se trouve que cette invitation que nous avons à porter nos regards sur Jésus, c'est une des solutions que nous propose ici l'auteur des Hébreux pour être fidèle à Jésus. Mais il va plus loin parce qu'en fait, ce verbe « porter vos regards sur Jésus », c'est une action. Ça veut dire que la deuxième solution, c'est que je dois faire un choix. Et ce choix, c'est un choix qui doit être intentionnel, qui doit être quotidien. C'est comme lorsque je conduis ma voiture, je dois regarder la route. Lorsque je suis sur mon vélo, je dois regarder les voitures. Lorsque je suis en train de faire du biathlon, il faut que je fixe la cible pour pouvoir tirer au centre. Si je veux que ma raison soit saine, que mes pensées soient fixées sur Jésus-Christ, j'ai besoin d'entraîner mon esprit, de faire le choix de regarder au bon endroit. Et j'aime bien cette citation de John Piper qui dit ceci, « Considérez Jésus, fixez les regards sur Jésus. Si votre esprit est comme une boussole se déplaçant dans un monde dément, le faisant tourner dans un sens ou dans l'autre, faites de Jésus le pôle nord de votre vie mentale, auquel votre esprit revient sans cesse au cours de la journée. » Vous savez comment fonctionne une boussole ? C'est une petite aiguille qui a la particularité d'être magnétisée de telle sorte à ce qu'elle soit attirée par le pôle nord qui exerce une attraction magnétique sur cette aiguille. Et ce qui est amusant, vous avez peut-être déjà fait l'expérience, c'est en effet lorsqu'on met des aimants autour d'une aiguille de boussole, elle devient complètement folle, elle tourne dans tous les sens. Et combien souvent je vois cette image qui s'applique à moi lorsque les circonstances se compliquent ou que le stress augmente ou que la pression augmente, mes pensées ont tendance à partir dans tous les sens. Alors entre nous, je ne vous demande pas de lever la main, mais tout à l'heure, dans le temps de prière que nous avons eu, qui était un temps solennel, de silence, est-ce que vos pensées sont restées à 100% concentrées sur Christ ? Ou est-ce que ça vous arrivait de penser à quelque chose que vous avez oublié de faire dans la semaine, ou un rendez-vous dans la semaine à venir ? Voilà ce qui se passe dans nos têtes lorsqu'on a ce défi de porter nos pensées sur Christ. L'aiguille de la boussole se met à tourner dans tous les sens. Il se trouve que si nous fixons nos pensées sur d'autres choses que Jésus ou d'autres personnes que Jésus, certaines personnes vont nous apprécier et nous louer dans ce que nous faisons, certaines vont nous dénigrer. Mais peut-être que beaucoup de personnes ne vont même pas s'intéresser à là où nous en sommes et ne vont rien nous dire. Si nous fixons nos yeux sur nous-mêmes, eh bien on peut aussi se sentir très rapidement insuffisant, incapable, pas à la hauteur. Et la réalité, c'est que pour fixer les yeux sur Jésus, la force ne peut pas venir de nous-mêmes. Mais ce choix de fixer les yeux vers Jésus tire sa force dans Jésus lui-même. Et regardez cette citation de Corrie ten Boom, qui est une femme célèbre dont vous avez certainement déjà entendu parler. Elle a survécu à la déportation dans la Seconde Guerre mondiale, dans les camps allemands. Et voilà ce qu'elle dit. « Si tu regardes au monde, tu seras angoissé. Si tu regardes à l'intérieur de toi-même, tu seras déprimé. Mais si tu regardes à Dieu, tu seras en paix. » Portez vos regards sur Jésus. Faites ce choix de porter vos regards sur Jésus. Ce qui nous mène à la deuxième partie, deuxième question que j'aimerais aborder avec vous. Pourquoi Christ est supérieur à Moïse ? C'est ce sur quoi insistent ces versets 2 à 6. Tu veux que oui, j'aimerais aborder deux choses pour illustrer cette supériorité de Jésus à Moïse. La première, concernant la fidélité. La fidélité, elle n'a de sens que dans la mesure où c'est une fidélité par rapport à une autre personne. ou par rapport à une idée que nous avons avancée. On ne peut pas être fidèle dans le vide comme un astronaute qui est en apesanteur dans l'espace. Il y a besoin d'être fidèle à quelqu'un ou à quelque chose. Et il se trouve que peut-être que vous avez reconnu à quoi fait référence cette photographie qui date de l'été dernier. Il s'agit de l'épreuve olympique d'équitation qui a été organisée dans les jardins du château de Versailles, dans l'ouest de Paris, et qui était un site assez extraordinaire parce que, à la fois, c'est un site magnifique, mais en même temps, vous avez conscience que Versailles, dans notre culture française, est quelque chose d'important, et puis qui même est connu dans le monde entier, dans la mesure où c'est une destination touristique extrêmement célèbre. Il y a quelques années de cela, j'étais en Suède pour un stage d'enseignement. Et voilà que, alors que j'étais avec ces élèves en train d'observer ce qui se passait, le professeur qui encadrait les élèves nous a demandé, moi et les stagiaires qui étaient là, de faire le cours et de choisir le sujet que nous aimerions aborder avec les élèves. On n'avait rien sous la main, donc on s'est dit, on va parler de Louis XIV. Et c'est venu assez naturellement parce que Louis XIV, on connaît, même si, bien sûr, en tant que protestant, ce n'est pas le roi que je porte le plus dans mon cœur. La réalité est que c'est une référence culturelle commune. Et c'est amusant parce que peut-être que si j'avais été dans un stage en France, j'aurais peut-être pas choisi ce personnage comme sujet de cours, mais là, à l'étranger, dans un contexte où les personnes que je côtoyais ne connaissaient pas l'histoire de France, ça paraissait assez naturel de parler de ce roi le plus célèbre de notre histoire. Et vous voyez qu'on se rend compte que parfois, lorsqu'on est en dehors de notre culture habituelle, routinière, commune, c'est là où on découvre quelle est notre culture et quelles sont nos racines, mais aussi quels sont nos référents culturels communs. Tout simplement, les autres stagiaires avec qui j'étais trouvaient ça assez naturel et facile de parler de ce personnage dont on a tous entendu parler, en tout cas pour ceux qui sont allés à l'école en France, depuis tout petit. Parfois, cette culture, elle peut nous rapprocher à travers des références communes. Parfois, ça peut être des références d'ailleurs assez personnelles entre deux personnes qui ont vécu quelque chose de fort. Il y a quelques jours de cela, j'ai entendu quelqu'un se tourner vers une autre personne à côté de moi et le dire « clé USB ». Et l'autre a répondu « quoi, t'es enceinte ?» Ok. Et là, tu te dis « bon ». Parfois, ces références culturelles sont des références assez personnelles et amusantes. Mais parfois, les références culturelles peuvent aussi nous séparer, dans la mesure où notre culture n'est pas forcément la même et n'est pas forcément commune. Ici, l'auteur a bien conscience de l'importance de la culture et se sert de la culture des Hébreux, qui est une culture juive, qui est une culture tirée des Écritures, qui est une culture tirée des traditions juives, et il se sert de cette culture pour leur expliquer quelque chose de fondamental. Et qu'est-ce qu'il leur explique ici? Il leur dit, Moïse, vous connaissez tous Moïse? Qu'est-ce qu'ils répondent? Bien sûr, Moïse. Moïse c'est qui? Moïse c'est notre guide, Moïse c'est notre sauveur, c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Moïse c'est notre juge, Moïse c'est celui qui a organisé, c'est le chef d'État qui a organisé de manière formelle, concrète, le gouvernement du peuple hébreu et qui est à l'origine de ce que nous sommes aujourd'hui. L'auteur prend donc Moïse et leur dit, Moïse, pour vous, c'est un modèle. C'est une référence culturelle sur laquelle vous avez tous des connaissances. Mais vous savez quoi? Eh bien, Jésus mérite plus de gloire que Moïse. Pour deux raisons. Et il avance dans ce texte les deux raisons pour lesquelles Moïse mérite plus de gloire, pour lesquelles Jésus mérite plus de gloire que Moïse. La première raison, c'est que Jésus est le constructeur de la maison, alors que Moïse est le serviteur dans la maison. La deuxième raison, c'est que Jésus est le fils de la maison, le fils du propriétaire, c'est le propriétaire même, alors que Moïse, lui, est le serviteur dans la maison. C'est une personne parmi d'autres dans cette maison. Ça veut dire que l'auteur ici dit à ces Hébreux, « Cela n'a donc aucun sens de laisser tomber Christ pour revenir à votre culture d'origine. Jésus est supérieur à votre culture d'origine. Jésus est supérieur à Moïse. » Et il insiste sur l'importance de la maison de Dieu. À 6 reprises, on voit ce terme de maison de Dieu ici. La maison de Dieu, comme on le comprend dans le texte, ce n'est pas l'église, le bâtiment en tant que soi, on est d'accord, c'est l'ensemble des chrétiens qui forment cette maison. C'est pour ça qu'il commence verset 1 en disant « frères et sœurs ». C'est pour ça qu'il insiste sur le fait « vous qui avez part », il y a une notion collective. Il y a l'idée que cette maison de Dieu, elle est formée de l'ensemble des personnes qui ont répondu à l'appel céleste. Les premiers chrétiens, d'ailleurs, n'avaient pas d'église, hein, ils se réunissaient chez les uns et chez les autres. La maison de Dieu, c'est donc des gens. Et ce que l'auteur rappelle à ces Hébreux, c'est une vérité incroyable. C'est que pourquoi ça vaut le coup d'être chrétien? Pourquoi ça vaut le coup de suivre Christ? Et parce que désormais, vous avez une maison. Vous faites partie d'une communauté de croyants, de frères et sœurs, avec qui vous partagez cet appel céleste. Et Dino l'a dit tout à l'heure, cette semaine elle est placée sous le signe de la prière pour notre communion fraternelle. Et vous savez quel est le verset de référence sur la communion fraternelle? C'est tiré d'un discours de Jésus dans Jean 17, versets 23-24, où Jésus explique que c'est par l'amour que vous avez les uns envers les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et je crois que ce choix est opportun de prier pour notre communion fraternelle, pour notre amour les uns pour les autres, parce que c'est la plus belle démonstration de l'amour de Dieu pour nous, en nous et à travers nous. Pourquoi Christ est supérieur à Moïse? Première vérité sur la fidélité, c'est qu'elle n'est qu'en relation à une autre personne. Mais la deuxième vérité, c'est que cette fidélité, elle est aussi prouvée par la persévérance. Verset 6, on lit bien, « Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. » Alors, est-ce que ça veut dire que si j'arrête de retenir fermement mon espérance, c'est terminé et je sors des privilèges que Dieu m'a accordés? Est-ce que ça veut dire que ce sont à travers mes forces et ma ténacité et ma persévérance que je dois continuer à avancer? Ce passage, il parle du fait que nous avons une relation personnelle avec Christ qui nous permet d'avoir une espérance en lui. Il nous a, par son appel céleste, invités à être en relation avec Dieu de telle sorte que nous avons l'espérance d'un avenir meilleur, d'un avenir dans sa présence éternelle. Mais nous avons aussi l'assurance que jour après jour, nous pouvons parler avec lui et nous pouvons tout lui dire, tout lui confier, tout lui partager et savoir qu'il nous écoute et qu'il prend en compte ce que nous disons et qu'il a aussi des choses à nous dire. C'est cette transformation du cœur, de l'intérieur, que Jésus fait lorsque nous l'acceptons. Et ça pose la question de savoir quelle est la sécurité que tu connais dans ta vie spirituelle. Il y a 3 types de sécurité. Tu peux connaître une sécurité qui est éternelle, qui s'oppose à une fausse sécurité. La fausse sécurité, ce serait de croire que tu es un croyant, alors qu'en fait, tu n'en es pas vraiment un. Et tu le sais parce que dans ta vie, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de fruit. Quand tu te lèves le matin, Jésus n'est pas l'objet de tes préoccupations, ni quand tu te couches le soir. Et ta vie s'écoule sans que la personne de Christ ait un impact sur ta vie. Il peut aussi y avoir un deuxième type de sécurité, qui est une sécurité conditionnelle. L'idée que tu te fais de cette confiance en Jésus repose sur le fait que ta vie est suffisamment droite et correcte pour mériter l'amour de Jésus. Et la culpabilité dans ta vie prend beaucoup de place, parce que dès que tu fais quelque chose de travers, tu remets en question cette confiance en Jésus. Et puis la troisième, troisième niveau de sécurité, après la fausse sécurité, après la sécurité conditionnelle, c'est la sécurité éternelle, qui se manifeste ici par de la fierté. La fierté dans le fait que, oui, en Jésus-Christ, j'ai une espérance. Oui, en Jésus-Christ, j'ai de la confiance. J'ai de l'assurance. Et cette fierté, elle se manifeste en moi et elle se manifeste par la transformation de mon cœur et par la présence du Saint-Esprit en moi. Ce qui veut dire que je peux être fidèle à Christ parce que c'est Christ lui-même qui a été fidèle à celui qu'il a établi. Et c'est son modèle qui vient me donner l'énergie pour être fidèle à mon tour. Ce qui me mène à la conclusion de ce texte ce matin, à savoir en quoi est-ce que j'espère aujourd'hui ? Quelle est mon espérance ? Où est-ce que je cherche mon assurance ? Et où est-ce que je trouve de la confiance pour ma vie ? Est-ce que c'est en moi-même ? Est-ce que c'est dans des investissements financiers à viser ? Est-ce que c'est dans mon programme de musculation et d'entretien physique ? Est-ce que c'est dans mon investissement dans mon travail ? Ou est-ce que c'est dans la chance ? La parole de Dieu, ce matin, nous dit ceci. Portez vos regards sur l'apôtre et le grand prêtre de notre foi. Espérez en lui. Et profitez de cet avantage extraordinaire de faire partie de la maison de Dieu. Et alors, celui qui est non seulement supérieur à Moïse, parce qu'il est le fils de la maison, alors que Moïse était le serviteur, parce qu'il est le constructeur de la maison, alors que Moïse était le serviteur, mais surtout parce qu'il est celui qui a fait Moïse. Alors, on peut aller de l'avant et avoir confiance dans celui-ci, et pensons cette semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute, à porter nos regards sur Jésus. Amen.